Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Ain veut servir de passerelle entre les gilets jaunes et les parisiens qui s'étaient mobilisés pour Nuit Debout. L'autre veut éteindre toute contestation. Alors que le député insoumis François Ruffin prônait dans la soirée la convergence des luttes à Paris, Édouard Philippe rencontrait dans l'après-midi un gilet jaune. Le Premier ministre reçoit encore aujourd'hui une délégation de contestataires pour calmer leur colère à la veille d'une nouvelle mobilisation sur les Champs-Élysées.
C'est un pays en crise qui accueille les dirigeants des 20 premières économies mondiales. Le sommet du G20 s'ouvre aujourd'hui en Argentine. Déjà de premières tensions diplomatiques et commerciales avec Donald Trump au centre du jeu contre la Russie et contre la Chine.
Un G20 contesté par ailleurs par des ONG dans une Argentine minée par une longue crise économique et soumise à une cure d'austérité. Mobilisation et sécurité, vous l'entendrez. 1,5 million d'enfants ont besoin d'aide humanitaire en Centrafrique. 2 enfants sur 3, maladie, nourriture, la communauté internationale doit agir, explique l'UNICEF.
Et puis la question du jour dans une dizaine de minutes, Catherine, électricité. Pourquoi la facture va-t-elle augmenter? On posera la question à François Lévesque, il est professeur d'économie à Mines ParisTech.
Remobiliser les acteurs de Nuit Debout et tenter la convergence des luttes avec les gilets jaunes. C'est le message porté par François Ruffin. Le député de la France Insoumise organisait hier soir, place de la République à Paris, une assemblée générale du collectif La Fête à Macron. 500 personnes présentes environ. François Ruffin qui appelle les Parisiens sensibles à Nuit Debout, donc au printemps 2016, à rejoindre les gilets jaunes demain sur les Champs-Élysées. François Ruffin qui veut inciter le peuple de gauche des grandes villes à rejoindre la colère de la France périphérique pour faire céder le pouvoir. Une nouvelle fête à Macron, suivie par Alexandra Dubouchereau.
La recette est toujours la même, une ambiance festive, des prises de parole et de quoi se restaurer. Mais dans la foule, quasiment aucun gilet jaune. Devant ce peuple des villes peu concerné par les prix des carburants, François Ruffin veut justement jouer le rôle de passerelle.
Ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas la taxe sur le gasoil, c'est les réformes, c'est les retraites, ce sont les lois Macron tous azimuts, c'est un combat contre l'oligarchie.
Pour le député de la Somme, l'enjeu est donc de créer une force au-delà des clivages entre deux classes.
Vous appartenez sans doute, comme moi, à la classe intermédiaire. C'est la classe qui a le choix. C'est la classe qui a le choix de derrière le qui elle se range. Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus. Et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas.
Et hier soir, le message semblait passer.
J'ai pas de problème pour boucler ma fin de mois, mais j'en ai ras-le-bol. Pour moi, la France, c'est pas la France que j'ai vue, une France pauvre, non. Je me battrai jusqu'au bout pour que la France soit une France normale, libre, égale et fraternelle.
Pendant près de 2 heures, les intervenants se sont succédés à la tribune improvisée au pied de la statue de la République. Une étudiante, un syndicaliste, la sœur d'Adama Traoré, une gréviste de l'hôtel Hayat, et tous ont appelé à se rendre samedi sur les Champs-Élysées.
Et les gilets jaunes seront-ils rejoints demain par les gilets rouges de la CGT? Le syndicat appelle à manifester pour le pouvoir d'achat et plus généralement contre la politique du gouvernement en matière de salaire, de retraite et de chômage, avec un rassemblement notamment à midi, place de la République à Paris. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, assure que rien ne s'oppose à ce qu'il y ait des gilets rouges à côté de gilets jaunes. Le parti communiste s'est joint à cet appel à manifester. Emmanuel Macron, lui, ne cesse de le répéter. Il entend, je cite, la colère légitime, l'impatience, la souffrance d'une partie du peuple français. À son arrivée du G20 à Buenos Aires en Argentine, le chef de l'État a expliqué vouloir répondre à cette colère par des décisions supplémentaires dans les semaines et les mois à venir, mais qui ne seront jamais des reculs. L'exécutif entre fermeté et dialogue, alors qu'Édouard Philippe doit recevoir une délégation de gilets jaunes cet après-midi à Matignon. La stratégie de l'exécutif analysée par Sophie Delpont.
Écouter les doléances pour éviter d'alimenter la colère jaune, alors que le discours d'Emmanuel Macron n'a pas apaisé les tensions et que les propos sur les Gaulois réfractaires au changement ou encore le souvenir des fainéants il y a un an ont encore laissé des traces. L'objectif du Premier ministre sera donc avant tout de se montrer accessible et respectueux de la parole des gilets jaunes. Il a d'ailleurs rencontré l'un d'entre eux hier à Matignon, Patrick de Perglace, venu à pied de Chalon-sur-Saône, avec qui il a discuté pendant 40 minutes. À la sortie, il semble satisfait par le niveau de dialogue avec le Premier ministre, des propos recueillis par France Info.
Il a ouvert son cœur, il m'a écouté avec son cœur, j'ai regardé ses yeux parce que pour moi les yeux parlent plus que la parole. Je lui ai dit que si on continue comme ça, on va au drame, à une nouvelle révolution. Il m'a dit qu'il me comprenait et que, comme homme, il entendait mon message et qu'il me donnait sa parole qu'il allait faire le nécessaire pour que le message passe auprès du président de la République.
Mais il continue d'appeler à manifester car il n'y a rien sur la table. Officiellement, en tout cas, pas de moratoire prévu sur la hausse des taxes, malgré les conseils répétés des élus locaux et de certains députés, même dans la majorité. Mais les revendications des Gilets jaunes sont encore bien plus larges, notamment celles contenues dans le mail reçu par de nombreux parlementaires demandant la fin de la limitation à 80 km/h sur les routes, zéro SDF dans les rues, un SMIC à 1500 euros ou encore un salaire maximum à 15 000 euros. À cela, l'exécutif répond pour l'instant par une prochaine grande concertation dans les territoires pendant 3 mois, comme un décalage entre l'urgence réclamée par le mouvement et le temps du politique.
Côté mobilisation, des Gilets jaunes bloquent encore complètement ce matin le dépôt pétrolier de Lorient dans le Morbihan. Et signe de la popularité du mouvement global, une pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe, lancée sur Internet par l'une des figures des Gilets jaunes, a dépassé hier le million de signatures. Quant aux services de renseignement, ils attendent demain une mobilisation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées à Paris, équivalente à celle de samedi dernier, près de 10 000 manifestants. Pour éviter les activistes casseurs, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé hier soir un dispositif de filtrage total des Champs-Élysées, comme l'été dernier, après la victoire de la France en Coupe du Monde de football.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Donald Trump est arrivé hier à Buenos Aires, en Argentine, où il doit participer pendant 2 jours au G20.
Un sommet qui pourrait être tendu sur le plan commercial et sur le plan diplomatique. Donald Trump a décidé d'annuler la rencontre prévue avec Vladimir Poutine en raison de la crise en Ukraine. Le Kremlin a réagi avec froideur, notant que Vladimir Poutine aurait ainsi quelques heures de plus à consacrer à des réunions utiles en marge du sommet. La Russie, accusée par ailleurs d'ingérence massive dans la dernière présidentielle américaine, un scandale aux multiples ramifications qui a connu hier un nouveau rebondissement défavorable à Donald Trump. Son ancien avocat Michael Cohen a avoué avoir menti à propos d'un projet immobilier en Russie impliquant le conglomérat Trump. Michael Cohen s'est vu illico qualifié de personne très faible par un président américain de plus en plus nerveux face à la tentaculaire enquête du procureur spécial Robert Mueller. Pour en revenir au cœur économique du G20, ce sommet s'ouvre dans un pays en crise, l'Argentine, promise à une cure d'austérité par son gouvernement et par le FMI. C'est un G20 pas comme les autres qui s'ouvre aujourd'hui, Marie Viennot.
Comme tous les G20 depuis le début, celui qui commence aujourd'hui à Buenos Aires se tient sous haute surveillance policière. Les chefs d'État se réuniront dans un centre de conférence en bordure de mer. 22 000 policiers sont mobilisés et les transports publics ont été quasiment supprimés pendant ces 2 jours dans la capitale argentine. Comme tous les G20, celui-ci aura son contre-G20. Une manifestation doit s'élancer cet après-midi du centre-ville pour dire non au G20. Dehors les présidents américains et brésiliens, Trump et Bolsonaro, à bas l'accord entre le président argentin et le FMI. C'est en effet la première fois qu'un G20 a lieu dans un pays qui vit sous assistance financière du FMI, un pays qui, il y a 16 ans, faisait faillite suite à une politique monétaire impulsée par le FMI. La présidence argentine voit dans ce G20 l'opportunité de faire parler d'elle en bien, mais encore faut-il que les États qui s'y retrouvent arrivent à se mettre d'accord, ce qui est loin d'être acquis. En guerre contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine, le président américain ne croit pas au multilatéralisme pour faire plier Pékin, mais aux taxes. S'il vient à Buenos Aires, dit-il, c'est pour faire plier son homologue Xi Jinping qu'il a prévu de voir en bilatéral. Et c'est cette rencontre à deux qui va donner le la de ce sommet qui se tient à 20, au risque de sonner le glas d'un multilatéralisme déjà bien mal en point.
Mais un moratoire sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sera-t-il annoncé à l'occasion de ce sommet du G20 en Argentine ? Washington et Pékin étudient en tout cas un accord provisoire qui permettrait de suspendre les hostilités selon les informations de notre correspondante en Chine, Dominique André.
Signe que ce sommet du G20 va peut-être permettre une avancée, Xi Jinping a emmené avec lui ses conseillers du commerce alors qu'il n'y a pas de négociation à l'ordre du jour officiellement en Argentine. Et côté américain, le conseiller au commerce de la Maison-Blanche, Peter Navarro, la bête noire des Chinois, sera bien présent lors de la réunion prévue demain entre le président chinois et Donald Trump. Dingy Fan, conseiller du ministère chinois du commerce à Pékin, nous confie que les deux pays sont sur la voie d'un moratoire qui certes ne réglera pas la guerre commerciale, mais ce serait le premier pas.
L'administration Trump serait prête à faire des promesses, à négocier avec la Chine. D'après les dernières informations, il ferait des concessions au moment de G20 pour dire que finalement les États-Unis ne relèvent pas le taux de droits de douane de 25% contre les importations chinoises à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Et c'est probable que le gouvernement Trump aille dire que finalement ce serait un moratoire, c'est-à-dire que ce serait un arrêt momentané.
Est-ce que c'est acceptable pour la Chine, un moratoire?
Bien sûr, c'est acceptable, mais les relations ne pourraient pas revenir au normal.
Malgré une avancée probable au G20, les discussions sont loin d'être terminées.
Dominique André à Pékin pour France Culture. Et pendant que l'Argentine accueille à partir d'aujourd'hui les dirigeants des 20 premières économies mondiales, l'UNICEF appelle la communauté internationale à aider la Centrafrique où, après 5 ans de conflits armés, 1,5 million d'enfants ont aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire, soit 2 enfants sur 3 dans le pays. Donaï Gledu représente l'UNICEF à Bangui.
On ne peut pas abandonner une génération entière d'enfants dans un pays à la misère, à la violence. J'ai vu par exemple récemment dans une ville qui s'appelle Cagabandoro au centre du pays où il y a une bonne partie de la population qui est déplacée. Les enfants auxquels j'ai parlé là-bas, peut-être 9-10 ans, certains ont été déplacés 3-4 fois. Ils ont fui un premier village parce qu'ils avaient été attaqués. Ils ont fui le village où ils avaient trouvé refuge parce que le village avait été attaqué. Ils sont arrivés en ville dans un premier camp déplacé. Le camp déplacé a été incendié, ils ont été dans un autre camp déplacé. Voilà, on a une génération d'enfants qui, quand il a la chance d'aller à l'école, part à l'école le matin en n'étant pas complètement certain qu'il va avoir une maison ou une hutte dans laquelle rentrer le soir. Ce dont on a besoin, c'est qu'on nous donne de quoi travailler, pouvoir vacciner les enfants, pouvoir traiter les malnutritions. Quand c'est pas traité, la plupart du temps, malheureusement, les enfants meurent. On a besoin d'argent pour sortir les enfants qui sont encore dans les groupes armés. Et puis ceux qui sont déjà sortis, on a besoin de financement aussi pour leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle, de relancer dans la vie. On a besoin d'argent pour tout en réalité.
Donaï Gledu, la représentante de l'UNICEF à Bangui, jointe par Nadine Epstein. Retour en France avec une nouvelle vague de retrait de médicaments à base de valsartan, utilisé en cas d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle. Deux nouveaux rappels ont été annoncés hier par l'agence du médicament à cause de la présence d'une deuxième substance classée comme probablement cancérogène. Une nouvelle mesure de précaution après celle de l'été dernier qui va entraîner des ruptures de stock. Le temps de ce vendredi 30 novembre, pluvieux à l'est, partagé entre nuages, éclaircies et averses à l'ouest. Les températures sont comprises ce matin entre 4 et 10 degrés en général, de l'intérieur des terres vers les côtes guyanaises.
Merci beaucoup Catherine Dutus.